Alors, je suis avec Philippe Silberzane. Bonjour Philippe. Tu as écrit un nouveau livre qui s'appelle « Stratégie modèle mental ». Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ce modèle mental ?
Alors, un modèle mental, c'est un ensemble de croyances que l'on construit sur le monde. Ce modèle mental, il fonctionne à un niveau individuel, bien sûr. Un être humain ne peut pas fonctionner sans modèle mental, sans représentation du monde qui lui permet d'agir, que ce soit pour des choses toutes simples comme sortir d'une pièce, monter un escalier, mais aussi pour interagir avec les autres. Donc il agit au niveau individuel, mais il agit aussi au niveau collectif, puisqu'en fait, une organisation, dans le sens le plus large, hein, que ce soit un marché, que ce soit une entreprise, que ce soit une administration, une armée, un groupe, ne peut fonctionner que sur la base de croyances partagées. C'est ce qu'explique Yuval Harari dans son ouvrage Sapiens. Et donc, ces croyances partagées, que moi j'appelle dans l'ouvrage effectivement modèle mental, c'est en fait la base de l'organisation. C'est ce qu'il a construit, c'est ce qu'il a défini.
C'est un peu un système de valeurs, quoi, en quelque sorte.
Alors, c'est des croyances et des valeurs, c'est-à-dire au sens de certaines croyances vont avoir plus d'importance que d'autres. Elles vont être constitutives de l'organisation. Par exemple, Sony, quand Sony s'est créé, l'une des croyances fondamentales de Sony, c'était que le progrès passait par la technologie et que donc la priorité de l'organisation, c'était l'innovation technologique. Et en termes de valeur, cette innovation technologique primait sur, par exemple, l'orientation client, ce qui fait que pendant très longtemps, Sony lançait des produits sans vraiment se demander si ça plairait à ses clients, simplement parce que c'était du progrès technologique. Donc, c'est ce qui différencie des croyances et des valeurs. Donc, un modèle mental va être cet ensemble de croyances et de valeurs que l'on pose, que l'on construit au fur et à mesure sur le monde et qui nous permet de fonctionner individuellement et surtout, dans le domaine du management, collectivement.
Alors, pour mettre à nu et utiliser et faire évoluer ces modèles mentaux, tu proposes une méthode que tu appelles META. META pour modèles mentaux, exposer, tester, ajuster. Alors, ce que je te propose, c'est de prendre justement la première de ces étapes qui est exposer. Qu'est-ce que tu veux dire par là ?
Alors, dès lors qu'on dit qu'une organisation est définie par ses modèles mentaux, donc ses grandes croyances et ses systèmes de valeurs, si elle est définie par ça, si on veut la faire évoluer, il faut faire évoluer ses croyances et ses valeurs, donc ses modèles mentaux. Donc, le modèle mental, il est à la base de l'organisation, il est ce qui a permis son succès, puisque une organisation s'est créée sur la base de ses croyances, elle a fonctionné parfois pendant de nombreuses années parce que ses croyances fonctionnaient correctement. Le danger dans une période de rupture, par exemple, c'est de rester enfermé dans ses modèles. Et donc, tout l'enjeu de la transformation et puis de l'innovation en général, c'est d'être capable de faire évoluer ces modèles mentaux lorsque l'environnement évolue et que le modèle ne correspond plus à la réalité. La difficulté, c'est que, et en particulier pour des entreprises qui ont eu des réussites importantes, ces modèles ne sont plus vus comme des croyances, mais comme des évidences, des vérités universelles. C'est comme Kodak qui dit la photo, ça sera toujours du papier, même si on prend une photo numérique, on finira par l'imprimer sur du papier. Et donc, lorsque l'entreprise doit changer, la première étape qui est probablement la plus difficile, c'est donc effectivement d'exposer ces modèles, c'est-à-dire de les faire passer d'une vérité universelle, et donc on ne le voit même pas comme un modèle, mais comme des évidences, et de les faire passer donc de cette évidence à c'est ce qu'on croit aujourd'hui, nous, mais qui ne sera peut-être plus vrai demain. Donc, en gros, en psychologie, on dit qu'on passe du sujet à l'objet. Et une fois qu'on les a exposés, en quelque sorte, on a mis ces croyances sur la table, eh bien, on peut les travailler. Mais tant qu'on n'a pas fait cette étape-là, eh bien, on est dans des vérités universelles, dans ce que l'on croit être des vérités universelles. Et donc, en quelque sorte, on est bloqué dans son modèle et on peut faire tous les plans de transformation qu'on veut. Si on commence pas par le modèle, on restera à la périphérie de l'organisation qui est là où en sont aujourd'hui beaucoup, beaucoup d'organisations dans leur plan de transformation.
Alors, dans ton bouquin, tu donnes un exemple avec une entreprise familiale où on dit il faut être agile. Et est-ce que tu peux nous raconter cet exemple, cette anecdote?
Oui, alors c'est un exemple qui est tout à fait typique. Hein. Je l'ai vécu dans plein de situations différentes avec des mots différents, mais celui-là effectivement est tout à fait typique. Donc cette organisation familiale dans le secteur pharmaceutique est une entreprise qui a comme une très belle réussite et qui trouve aujourd'hui que ses processus de décision sont trop lents. Le monde s'accélère, ils ont tendance parfois à se faire dépasser par des startups, à se faire prendre de court par des évolutions de la réglementation. Et leur processus de décision est trop lent. Alors, impératif du PDG, il faut qu'on devienne agile. Alors, ce que lui appelle agile, effectivement, c'est accélérer nos processus de décision. Et quand on lui demande, en fait, d'où vient le travail qu'on a fait avec lui, on lui dit, mais d'où vient cette lenteur? Alors, il nous explique, je fais court, il nous explique qu'elle vient du fait qu'il y a historiquement une culture du consensus dans l'organisation, à la fois parce qu'ils ont une origine familiale, donc proximité des dirigeants et de leurs équipes jusqu'aux fondateurs, et en même temps parce que bah, dans le secteur pharmaceutique, évidemment, la santé du patient, la sécurité du patient est primordiale, et donc le consensus a historiquement été vu comme la raison du succès de l'organisation et surtout du fait qu'elle n'a jamais mis, en fait, historiquement, la vie du patient en danger. Quand on essaye d'accélérer les processus de décision, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est évidemment de les simplifier. Donc il y a eu un impératif de simplification, mais qui s'est heurté au consensus, puisque la simplification, ça consistait à enlever des gens des processus de décision en disant ben, toi, toi, toi et toi, vous n'avez pas besoin d'être dans cette décision-là. Et en fait, ça a réveillé le système immunitaire de l'organisation, le modèle mental consensus égale sécurité. Égal succès de l'organisation, s'est défendu de manière très sincère et bah, les processus, les projets de simplification tournent en rond depuis très longtemps parce que justement ce modèle mental du consensus n'a pas été exposé. Et donc il est resté bien caché parce qu'en plus il n'est pas conscientisé forcément par les gens. Il ne ressort que quand on fait des interviews, on leur fait parler de la façon dont ils fonctionnent, etc. Et donc, bah, ils ont tourné en rond pendant longtemps parce que, ils n'arrivaient pas à simplifier les processus de décision.
Donc justement, ça nous amène à la deuxième étape qui consiste à tester ce modèle mental et à mettre en exergue le conflit entre ce modèle et l'objectif de l'entreprise.
Exactement. Alors, le test, il est très important parce que le réflexe que l'on aura très souvent dans les logiques de transformation, si je continue notre exemple du consensus, c'est de dire, bon, bah non, le consensus aujourd'hui, c'est complètement ringard, faut être agile, faut décider vite et tout. Si on fait ça, on va avoir une résistance immunitaire et on réussira pas. Le test, il a pour but de dire, ce modèle mental du consensus dont vous vous plaignez aujourd'hui, il est quand même la raison ou l'une des raisons de votre réussite. Donc, on ne peut pas juste le jeter. Donc on peut pas, c'est pas comme une app, hein, on supprime la version 14.1 et on remplace par la version 14.2. Donc l'idée c'est de le faire évoluer. Donc on va tester, c'est-à-dire que on va se demander dans quelle situation le consensus est important, en tout cas ce qu'on appelle le consensus. Et de fait, il existe encore de nombreuses situations dans lesquelles ce consensus a un rôle absolument crucial, donc on va le garder, mais aussi identifier certaines situations dans lesquelles il est préjudiciable. Et à ce moment-là, on va pouvoir dire, bah ouais, ici, là, il vous coûte très cher ce que vous appelez vous consensus. Donc ça, c'est la phase de test. Et donc, on va reconnaître que, par exemple, je dis n'importe quoi, pour lancer un nouveau site web, on n'a pas forcément besoin que les 150 responsables des N-1, N-2, N-3 soient présents autour de la table. Donc on va ensuite, et c'est un peu la phase d'ajustement, identifier des situations dans lesquelles on peut jouer avec ce modèle. Le faire bouger un peu en disant bah voilà pour la nouvelle version du site web peut-être que Dupont et Dubois n'ont pas besoin d'être présents ou en tout cas ce que l'on appelait nous consensus c'est-à-dire tout le monde autour de la table peut prendre d'autres formes et donc on joue avec et quand on fait ça on fait évoluer l'organisation par petites touches et surtout on le fait évoluer dans le respect du modèle mental dominant et donc on n'est plus dans une logique de conflit. On est dans une logique d'ajustement qui a plus de chances de réussir.
Et ça, c'est effectivement la troisième étape, cet ajustement, et qui complète le modèle méta. C'est un modèle
Exactement.
assez simple, finalement, Et donc, je suppose que tu as pu le tester sur des entreprises et que tu as pu obtenir des résultats dans des missions, peut-être?
Oui, alors l'intérêt de ce modèle, alors qui est très light, hein, l'intérêt de ce modèle, c'est qu'il fonctionne à plein de niveaux en fait, c'est-à-dire qu'il fonctionne au niveau de l'organisation, mais c'est même pas forcément recommandé de le faire au niveau de l'organisation, mais il fonctionne au niveau des individus. C'est-à-dire que, en fait, nous, quand on travaille avec des managers, on leur dit de le tester. La phase de test, hein, l'impératif, c'est que ça soit toujours sur des petits projets. L'idée étant que, il faut pas de prise de risque énorme et il faut pas attaquer le système dans ces modèles mentaux de front. Donc, on n'est pas dans la logique du chevalier blanc, on est dans la logique des petits pas. Et donc, cette approche méta, elle fonctionne au niveau individuel, c'est-à-dire que le manager va pouvoir se dire, bah, lundi matin, je vais faire un petit test sur un modèle mental, par exemple, je vais gérer ma réunion différemment. Voilà, c'est tout bête, et donc ça fonctionne au niveau individuel, ça fonctionne au niveau de l'équipe, du département, de la business unit et de l'entreprise. Et c'est ça qui est important, c'est qu'effectivement, on a des gens comme ça qui ont modifié, par exemple, la façon dont ils faisaient des budgets, voire la notion même de budget, la façon dont ils géraient leurs réunions, la façon dont ils géraient des relations de hiérarchie, cette notion de consensus, hein, qui a pu être travaillée par certains managers, et donc en préservant l'idée de consensus, c'est-à-dire chacun doit pouvoir être entendu. Mais la façon dont le consensus est redéfini peut changer. Donc, ça prend des formes différentes. Parce qu'une fois que les gens ont pris conscience par l'exposition de leurs modèles mentaux, et une fois qu'ils ont compris qu'on n'était pas là pour les attaquer, ils sont beaucoup plus à l'aise pour les faire évoluer.